Les suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Dans le monde plutôt masculin de la bande dessinée, elle fait partie des autrices qui montent. Lauréate du Fauve d'Angoulême, prix Jeunesse 2018, et du prix Artemisia de la fiction historique pour son album La Guerre de Catherine, adapté du roman de sa co-scénariste Julia Billet, Claire Fauvel aime raconter des histoires, et notamment des histoires de femmes et de jeunes filles, comme celle de la reine des bandits Poulane Devi. Et c'est aussi à sa manière une autre rebelle qu'elle met en scène dans son nouvel album, Nawel, une jeune fille de banlieue qui va découvrir que la musique est sa vie, qu'elle a du talent, mais que cela ne suffit pas toujours. Un récit d'apprentissage aux allures de critique sociale, un portrait beau et sensible d'une jeunesse pleine d'espoir et d'envie, d'intensité et d'énergie, une jeunesse de passion et donc de souffrance qui navigue entre précarité, révolte et désillusion. La nuit est mon royaume de Claire Fauvel est paru aux éditions Rue de Sèvres et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Claire Fauvel.
Bonjour.
Alors quand on invente une histoire, c'est très important que le lecteur puisse s'attacher au héros ou à l'héroïne, et singulièrement quand on fait une bande dessinée, ça passe pas seulement par le comportement, par la personnalité, ça passe aussi évidemment par le dessin. Alors je voudrais savoir pour commencer, comment est-ce que vous avez imaginé le personnage de Nawel, graphiquement parlant ?
Alors déjà, enfin, ce personnage, il est en grande partie inspiré de ma meilleure amie en fait, donc c'est un peu un mélange entre elle et moi. Et après physiquement, alors il y a certains traits que j'ai un peu empruntés à mon amie, et puis d'autres qui sont complètement imaginaires. Je voulais que ce soit une fille assez charismatique en tout cas physiquement.
Oui, donc elle est bien dans son corps, elle est bien dans ses baskets hein, à proprement parler. Voilà, donc quand l'album démarre, elle est en classe de troisième, elle est au collège. Le look, les vêtements, la dégaine, ça pose tout de suite un personnage en bande dessinée. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Décrivez-nous un petit peu Nawel.
Ah oui. Alors Nawel, donc c'est une jeune fille au début de l'album qui a à peu près 13-14 ans, qui est collégienne. Elle a grandi en banlieue parisienne, donc elle a vraiment le look de la banlieusarde, on va dire. Elle a un jean noir, des baskets,
un petit peu déchiré au niveau des genoux, hein. Voilà, que tout le monde s'habille un peu de la même façon dans sa classe.
Avec ses copines, elles sont toutes habillées pareilles. Et elle est d'origine algérienne aussi, mais bon, c'est quelque chose qui ressort pas trop. Elle est vraiment habillée comme une jeune à la mode, quoi.
Alors, j'insiste un petit peu sur le look, Claire Fauvel, vous m'avez compris, parce que il se trouve qu'il y a une nouvelle qui arrive dans la classe, au début de l'album. Et cette nouvelle, elle s'appelle Alice. C'est l'autre fille du duo dont vous allez nous raconter, l'histoire. Et physiquement, elle est complètement différente des autres.
Oui, alors Alice, elle vient juste d'arriver en banlieue parisienne. Elle a pas grandi là et c'est vrai que quand elle arrive, elle a pas les codes. Et notamment, elle a pas les codes vestimentaires, elle a pas les bonnes marques, elle a pas les baskets qu'il faut. Et donc, elle se fait un peu moquer par les autres filles.
Elle est tout de suite cataloguée, quoi. Elle s'habille, tu t'habilles pas comme nous, donc t'es une étrangère, donc on se demande ce que tu viens faire sur notre territoire, quoi.
C'est ça, elle est ringarde, quoi, vraiment.
Voilà, notamment donc des chaussettes avec des papillons.
Ouais, des baskets avec des scratchs, donc ça va pas du tout.
Voilà, et puis un manteau qui est quand même pas tout à fait dans les tons de l'endroit où elle se trouve.
C'est ça.
Bref, Nawel et Alice vont se rencontrer, elles vont former un duo improbable, et ce qui va les réunir, c'est ça.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish way. Song away.
McCartney, Jenny Wren dans VMDN sur RFI. Alors c'est pas la chanson la plus connue de l'ex-Beatles, hein, Claire Favel. C'est pourtant cette chanson-là que vous avez choisie pour faire démarrer votre histoire, quoi, pour provoquer l'étincelle de l'amitié entre vos deux héroïnes, Alice et Nawel. Pourquoi cette chanson-là ?
Alors, en effet, c'est pas la plus connue de Paul McCartney ou des Beatles, mais en fait, au niveau des paroles, elle faisait vraiment sens par rapport à l'histoire. Et voilà, elle parle d'une jeune femme qui chante et puis qui perd la foi à cause de la folie, la guerre, la pauvreté du monde et qui la retrouve à la fin de la chanson. Donc je trouvais que ça s'appliquait bien à l'histoire voilà, de la BD.
Mais vous étiez parti de McCartney et des Beatles, c'est comme ça que vous avez trouvé ce fil rouge-là ?
Oui, c'est ça en fait. Donc je voulais que l'héroïne découvre grâce à sa nouvelle amie l'univers de la pop et du rock, un univers musical qu'elle ne connaît pas en banlieue parisienne. Et puis j'ai réfléchi à quel groupe elle pouvait écouter. J'aurais pu choisir des groupes beaucoup plus récents, mais je trouvais que ça datait tout de suite la bande dessinée. Et je me suis dit, bon, on va commencer par le grand classique, les Beatles. Et puis dans les Beatles, je trouvais que cette chanson de Paul McCartney, elle était très belle au niveau des paroles.
Mais alors c'est vrai qu'on peut être étonné, parce que quand on est dans un collège de banlieue, comme c'est le cas de vos deux héroïnes, le premier type de musique auquel on pense, c'est pas du tout la pop rock, c'est pas du tout les Beatles, c'est plus le rap. Ça pouvait pas démarrer par une histoire de rap ?
Si, c'est vrai que ça aurait pu aussi, mais... Ouais, j'aimais bien le côté un peu improbable aussi, étonnant, et c'est pour ça qu'elles deviennent amies d'ailleurs, les deux héroïnes, parce qu'elles sont dans un univers, elles sont un peu toutes les deux dans cet univers, et voilà, qu'elles partagent seulement à deux, et je pense que c'est ça qui les unit, alors que ça avait été un autre type de musique, ça serait peut-être plus facilement intégré, je sais pas.
Parce que ça fait un petit peu démodé quand même, on peut se dire que les Beatles avaient plus Alice que Nawel à la base.
Oui, c'est ça, c'est elle qui amène les Beatles. On sait qu'elle a un grand frère et tout, donc c'est peut-être par là qu'elle a entendu parler des Beatles. Et puis après, dans l'album, on va voir d'autres albums de musique. Elles écoutent aussi d'autres choses quand même beaucoup plus récentes. Et d'ailleurs, elles vont se mettre à la musique et elles vont faire de la musique plutôt électro, plus actuelle finalement, toutes
oui,
les deux.
Mais c'est vrai qu'au départ, Nawel, elle se lance vraiment. Alors, elle écoute toute la discographie de McCartney et des Beatles, hein, parce que c'est pas une fille qui se contente de la demi-mesure. Quand elle fait quelque chose, elle y va vraiment à fond les ballons. Et donc, elles vont toutes les deux monter leur groupe, monter leur duo qui va s'appeler Nuit Noire. C'est un nom qui leur vient finalement extrêmement facilement. Hein. Pourquoi Nuit Noire ?
Ah, pourquoi Nuit Noire ? Bonne question, il faut leur demander.
Il faut leur demander, oui, parce que parfois les personnages, hein, dans les bonnes histoires, prennent souvent un petit peu le pouvoir
ouais,
sur l'auteur.
Prennent des initiatives, c'est elles qui ont choisi. Non, bah c'est une référence à la nuit qu'on va retrouver tout au long de la bande dessinée. Hein. C'est aussi pour ça qu'elle s'appelle La Nuit est mon royaume, c'est un clin d'œil. Et voilà, je pense qu'elle cherche un nom un peu sombre et romantique, parce que c'est des adolescentes aussi, donc elles sont un peu comme ça... romantique et gothique un petit peu.
Oui, et elles partent de rien ou presque. Hein. Donc Alice va s'acheter une guitare électrique, ça pose pas trop de difficultés. Pour Nawel, il faut un clavier. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que les parents ils sont pas vraiment d'accord. Et il faut expliquer quand même, Claire Favel, que bon, ben, quand ils comprennent, les parents, qu'elle a envie de faire de la musique son avenir, son métier, il n'en est pas question.
Oui, c'est ça. Enfin, ils la laissent jouer de la musique, hein, mais pour eux, c'est un loisir, c'est tout. La musique, ça va être un loisir, mais il n'est pas question d'en faire un métier.
Trouve-toi un vrai métier, dit sa maman. Hein.
Voilà, et tu feras la musique à côté pour t'amuser. Donc voilà, elles vont quand même réussir à faire des études dans la musique, un BTS dans les métiers audiovisuels, mais justement, il va y avoir toute une phase d'explication aux parents, et les parents vont quand même accepter de la laisser faire ses
études. Mais pourquoi
études.
Est-ce qu'ils sont si réticents que ça, les parents? C'est assez classique, ouais. Parce que bon, un métier artistique, on se dit tout de suite, bon, ça va être la précarité, ça va être la galère, l'avenir n'est pas assuré, ou il y a d'autres raisons un peu plus profondes?
Non, je pense pas. Enfin, il y a une différence culturelle, mais je pense que c'est vraiment qu'ils aiment très fort leurs enfants. Et la mère de Nawel lui dit un moment que voilà, elle a pas eu la chance de faire des études. Elle veut absolument que ses enfants fassent des études. Et ils ont une vision de la réussite qui est un peu naïve aussi parfois. Pour eux, la réussite, c'est faire beaucoup d'années d'études, de préférence scientifique. Et voilà, ils vont apprendre qu'il y a d'autres façons de réussir dans la vie, quoi.
Oui, donc en fait, ils ont un petit peu l'avenir tout tracé pour leur fille. Soit médecin, ce sera quand même formidable
c'est
pour
ça.
La famille. Et puis en plus, elle est brillante. Hein, elle est bonne élève. Et donc, vous l'avez dit quand même à demi-mot, Claire Favel, il y a aussi une différence de culture. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle est d'origine maghrébine, elle est d'origine algérienne, hein, le personnage de Nawel. Ça change beaucoup de choses?
Je sais pas, je pense au niveau des études, ça change peut-être pas tant que ça par rapport à d'autres enfants de leur entourage. Après, il va y avoir vraiment des points spécifiques culturels quand elle va entrer dans la culture du rock, elle va vouloir se faire des tatouages, des choses comme ça, où là, ça va pas du tout passer avec les parents. Ça, on le voit un peu après dans la BD. Mais ouais, voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder parce que c'est... une BD que j'ai enfin en partie coécrit avec mon amie qui est d'origine algérienne et du coup on a travaillé ensemble tous les dialogues avec les parents pour que ça sonne juste et voilà pour parler du décalage culturel entre les parents qui viennent d'Algérie et leur fille qui est née en France, qui a grandi en France et voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a une scène de dispute entre la fille et les parents qui est vraiment l'une des scènes je trouve les plus fortes hein, de votre récit et on se rend compte que dans cette famille et eh bien lorsqu'on se dispute eh bien les parents parlent tout de suite arabe quoi d'une façon complètement naturelle et là on sent justement rien qu'à l'usage de cette langue le décalage de génération.
Ouais, c'est ça, je trouvais que pour moi c'était important qu'il y ait de l'arabe dans le texte et donc ça c'est quelque chose que j'ai travaillé avec mon amie, elle m'a vraiment dit mais dans la famille on parle arabe quand les gens sont pris par l'émotion, c'est là que ça parle arabe quoi.
L'émotion positive ou négative.
Voilà, dans les deux cas. Et donc voilà, j'ai essayé de garder ça et il y a quelques phrases sous-titrées bien sûr en arabe dans les discussions importantes.
Bon, mais en même temps, il faut pas non plus tomber dans le cliché parce que c'est pas du tout une famille rigoriste.
Non,
voilà,
non.
On croit, on a la foi, mais ça fait partie de la vie quoi, sans plus.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ils sont hyper tolérants et ils sont quand même très à l'écoute de leur enfant et ils vont quand même la soutenir plus ou moins. Enfin, c'est compliqué.
Voilà. Mais, donc, on va pas tout, va pas tout raconter, mais disons simplement, et ça, on peut le dire parce que c'est sur la couverture, quoi. Donc, elles sont toutes les deux, hein, vos héroïnes en train de jouer de la musique. Donc, on comprend que Nawel va s'émanciper, qu'elle va faire après, évidemment, c'est toute l'histoire, hein, de belles rencontres, d'autres rencontres un peu plus toxiques, il y aura des rapprochements, il y aura des éloignements avec des personnages qui sont extrêmement complexes, bien souvent. Il y a Isaac, par exemple, qui est un musicien suédois avec une gueule d'ange et qui commence à avoir un vrai succès d'estime. Il y a aussi Camille, qu'Alice a rencontré sur l'application de rencontre Tinder, hein, donc on est vraiment dans une bande dessinée des années 2000. Camille qui est devenue bizarrement plus proche de Nawel que d'Alice. Il est étudiant au Beaux-Arts. C'est lui qui fait la pochette du premier EP, donc du premier mini-album de ce duo Nuit Noire. Et bien justement, voici Camille qui appelle Nawel au téléphone sur son portable. Nous sommes page 69 de votre album.
C'est peut-être Isaac ? Il aurait trouvé mon numéro ? Allô ? Ah, c'est toi Camille.
Coucou Nawel, on ne voit plus ces derniers temps. Ça te dirait de lâcher 2 secondes ton synthé pour venir à la meilleure soirée de l'année?
Alice vient?
Non, elle est avec Julien. Mais il y aura tous les gens de ma classe au Beaux-Arts. C'est une soirée déguisée et mythologique. Je te vois bien en Circé, la magicienne. Tu viens?
Ok, à toutes. Je t'enfilerai de la magicienne. Je vous entends d'ici me dire, mais qui est ce Camille? Camille est un ex d'Alice. Enfin, pas vraiment. Ils se sont rencontrés sur Tinder, mais il ne s'est rien passé entre eux. Et pour cause. Pour embêter Alice, je me suis pointée à leur premier rendez-vous, au cours duquel Camille n'a eu Dieu que pour moi. Depuis, il me voue un véritable culte. Ça ne me déplaît pas. Pardon, madame. J'ai juste ça. Je peux passer devant ?
Allez-y, allez-y. De toute façon, tout vous est aujourd'hui à vous.
Qu'est-ce qu'elle racontait, celle-là ? Tout nous est dû à nous, qui ? Nous, les jeunes ? Ou bien nous les... Je savais que j'aurais pas dû sortir. Foutue soirée. Qu'est-ce que je fous là? C'est toujours pareil avec les amis de Camille. Sensation désagréable de ne pas appartenir à leur monde. Je vis dans la même ville, mais cette ville ne veut pas de moi. Pourtant, je foule le même sol. Je lis les mêmes livres, regarde les mêmes films que vous. Je fais même partie du fleuron de la nouvelle scène pop parisienne. Mais non, 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 madame, tout ça, ça ne compte pas. Rien à faire, ça doit être écrit sur ma tronche. Je suis à jamais la gamine de la cité. L'arabe de service, à qui tout est dû.
Il faudra que tu m'expliques ce qui n'était pas clair dans Soirée déguisée.
Camille, je suis Polyphème, le cyclope. Ça te déçoit? Je ne suis pas au niveau de tes amis des Beaux-Arts.
Disons que je t'aurais plutôt vu en sirène envoûtante, ou en sphinx énigmatique. qui reste plusieurs semaines sans donner de nouvelles.
Entre le magasin et la musique, je ne vois plus la lumière du jour en ce moment. Et toi ? Pourquoi avoir choisi le roi des enfers ? Tu veux ma mort ?
Je voulais juste réviser mes cours d'anatomie. M'accorderez-vous une danse macabre, cher Cyclope ?
Je me sens pas hyper bien. J'ai envie de rentrer. Tu me raccompagnes ?
Il m'est trop difficile de vivre sereine.
Désolée. Une nana m'a fait une réflexion raciste en venant. Ça m'a mise de mauvaise humeur. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais je suis incapable de m'y faire. Surtout que je la ramène jamais avec mes origines algériennes.
C'est vrai que tu dis jamais rien là-dessus. Alors que je te rabâche sans cesse les histoires de ma grand-mère libanaise.
J'aime pas en parler. Avec ma famille, c'est compliqué.
Je comprends. Hésite pas si tu changes d'avis. Je sais ce que c'est d'être partagé entre deux cultures. Chez moi, on a toujours vécu à la française. Le passé de mes parents était tabou. C'est récemment que j'ai osé leur poser des questions sur le Liban. J'avais besoin de comprendre d'où je viens pour construire mon avenir.
À propos d'avenir, j'ai plus très envie de rentrer. On va boire un verre ?
Si tu rentres dans le bar avec le roi des enfers, tu vas encore te prendre des réflexions. Si on passait plutôt chez moi, j'habite à côté. Mes parents sont pas là ce week-end. Fais comme chez toi, je t'apporte un verre. Qu'est-ce que tu veux boire ?
Tu ne voulais pas danser ?
Je reste là.
Voilà, beaucoup de choses hein, dans cet extrait que Mickaël Goncalves, notre réalisateur, a mis en onde pour nous, Claire Fauvel. Vous parliez tout à l'heure de cet ami qui avait en partie inspiré le personnage de Nahuel, et vous me disiez vous avez en particulier beaucoup travaillé les dialogues avec elle. Est-ce que ces dialogues qu'on a entendus là, ils sont inspirés de la réalité ?
Alors oui, on peut dire qu'ils sont inspirés de la réalité. Alors ce moment précis de l'histoire, c'est moins inspiré de mon ami, on va dire, d'enfance. Là, je me suis inspirée d'autres amis à moi aussi, notamment pour créer le personnage de Camille. Camille, c'est un ami que Nahuel a rencontré, enfin, par Internet. Et donc, quand même, dans la BD, il y a la question de l'identité, de l'acceptation de son identité qui est très présente.
La difficulté de vivre entre deux cultures.
C'est ça, partager entre deux cultures. Et lui, c'est vraiment celui qui a bien réussi. Il est d'origine libanaise, mais voilà, très à l'aise. C'est quelque chose qui gère très bien. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce personnage était intéressant par rapport à elle. Mais il y a quand même une différence de milieu entre deux. Il y a une vraie fracture sociale, on peut le dire. Ça, on le voit au moment où elle va à une fête avec ses amis des Beaux-Arts. C'est pas du tout le même milieu. Et voilà, lui, il est issu d'un milieu plutôt bourgeois. Et du coup, je trouvais que c'était des personnages intéressants, quoi.
Mais alors, parmi les phrases qu'il y a effectivement dans la bouche de vos personnages, il y a celle-ci qui vient deux fois dans cet extrait. Tout vous est dû. Et elle redit après, je suis à jamais la gamine de la cité, l'arabe de service à qui tout est dû. C'est une phrase qui peut sembler très banale et en même temps extrêmement violente.
Elle est violente, en fait. Je voulais parler du racisme. Pour moi, c'était important vu que l'héroïne est d'origine algérienne. Mais je voulais le faire de manière assez subtile. Et en fait, cette phrase, c'est vraiment du vécu, quoi. Tout simplement, dans un magasin, j'ai entendu une personne qui disait, oui, allez-y, passez devant. De toute façon, tout vous est dû, quoi. Qu'il a dit comme ça à une jeune fille d'origine maghrébine, quoi. Et j'ai halluciné, quoi. Et puis, enfin voilà, les gens sont passés à autre chose comme si de rien n'était. C'est un racisme ordinaire complètement intégré. Et du coup, voilà, je voulais le mettre dans la BD. C'était important de montrer voilà, le racisme ordinaire. Quoi.
Mais là, Claire Fauvel, on n'est pas du tout dans un album un peu girly sur deux jeunes filles qui ont envie de s'émanciper, sur un album sur l'adolescence. On est dans une vraie critique sociale, quoi. Il y a aussi cette dimension-là. Comment vous avez pu mélanger comme ça les deux, le côté à la fois très léger et au contraire beaucoup plus lourd et vraiment presque sociologique?
Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc ça me fait plaisir si vous le remarquez, mais voilà, j'ai vraiment essayé de prendre une intrigue assez légère, très adolescente, c'est vrai, hein, deux filles qui montent un groupe de rock et qui veulent réussir dans la musique, quoi. Et puis, c'est un prétexte pour parler d'autres choses plus profondes et, notamment, moi, un des thèmes les plus importants, c'est vraiment le déterminisme social. Comment, une jeune fille qui vient de la banlieue va réussir à réaliser ses rêves, et on voit qu'elle va devoir affronter plus d'obstacles que les autres jeunes de son âge. Et puis voilà, il y a aussi d'autres thèmes en fond, le racisme, l'identité, plein de choses.
Mais il y a un vrai déterminisme social aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on a vraiment tendance, en fonction de ses origines, en fonction de l'endroit où on habite, à enfermer les gens dans une case.
Ah bah oui, je pense. Enfin, pour moi, c'est assez évident. Et une des choses qui m'a donné envie de parler de ça, c'est le constat, par exemple, que tous les gens avec qui j'étais au collège ou au lycée, parce que j'ai aussi grandi en banlieue, la plupart d'entre eux, ils sont au chômage, ils ont eu des difficultés, ils sont restés dans la ville où on a grandi, ils n'ont pas déménagé. Enfin, c'est assez dur. Puis j'ai écouté pas mal d'émissions, de choses sur les grandes écoles aujourd'hui en France, qui sont quand même fréquentées souvent par les descendants d'une élite. Alors même s'il y a des efforts pour aller vers la mixité sociale, mais on est encore loin d'y arriver, quoi.
Mais c'est vrai que vous avez situé le début de votre action à Créteil. Donc Créteil, c'est dans le Val-de-Marne. Créteil, bon, il y a une station de métro, donc c'est pas très très loin de Paris à vol d'oiseau. C'est presque une commune limitrophe de Paris. Il y a juste Alfortville, je crois, entre Créteil et Paris. Et pourtant, quand les deux gamines quittent Créteil pour Paris, on a l'impression qu'on change complètement de monde, quoi. Qu'elles franchissent une sorte de frontière, de fleuve qu'il est difficile de passer.
Oui, c'est ça, elles franchissent le périphérique, en fait.
Voilà, tout simplement, mais le périphérique, c'est une barrière, quoi.
Oui, c'est vrai, je pense, c'est une vraie barrière culturelle. Et là, elle le raconte aussi quand elle voit la différence des rapports filles-garçons.
Les codes sont pas du tout les mêmes.
Les codes sont pas les mêmes.
Alors ça, expliquez-nous, parce qu'on a un auditoire international. Et c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément les codes amoureux, les codes des relations filles-garçons, sans aller forcément jusqu'au flirt ou à une vraie histoire d'amour. Mais les relations filles-garçons dans une banlieue comme Créteil et dans la ville de Paris, qu'est-ce que ça change concrètement?
Alors, on va dire, je trouve qu'en banlieue...
À quelques kilomètres de distance.
Oui,
hein.
Ah oui, à quelques kilomètres à peine. Bon, après, c'est pas une généralité non plus, mais en tout cas, je trouve que les relations filles-garçons, elles sont vraiment gangrénées par le machisme, quoi, en banlieue, et c'est assez impressionnant. Et il y a un espèce de code de l'honneur, quoi. On n'a pas le droit, c'est un peu la honte d'être amoureux. Les relations filles-garçons sont très dures. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai senti que c'était pas la même ambiance du tout, quoi.
Donc c'est mieux à Paris?
Ah ouais, moi je préférais. ça me plaisait. Carry alone, such a long time ago, like a dead horse, meadowlark dry.
Thank you. Ken Stevens, Carrie and Lowell sur RFI, un album que l'on croise au détour d'une des cases de votre bande dessinée, Claire Fauvel, avec là aussi, hein, à l'oreille, un petit côté Beatles peut-être.
Oui, bah c'est une des références donc des héros de la bande dessinée, le groupe des héroïnes et puis l'autre garçon musicien qu'elles vont rencontrer après, Isaac. Et voilà, je pense que c'est une des choses qui les lie, c'est qu'ils ont les mêmes influences très pop des années 60 et ça se retrouve dans ce morceau en effet.
Mais cette chanson-là, elle est très récente, hein, 2015
oui,
hein, quand même.
C'est,
hein.
Ouais, c'est un artiste, on sent, qui est influencé par cette époque, je pense, hein, Sufjan Stevens.
Alors, ouais. La musique est très très présente évidemment dans votre récit. Il y a évidemment tout le travail d'écriture et de composition que font les deux héroïnes pour construire leur chanson. D'ailleurs, ça vous dirait, Claire Fauvel, qui avait commencé en écrivant des dialogues, bah, d'écrire aussi des chansons?
Alors non, je pense que je serais très mauvaise. Et oui, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à écrire les paroles des chansons dans
la
BD.
Vous avez été forcée, parce qu'il y a quand même quelques, voilà, scènes de concert, quelques scènes de répétition. Ouais. Alors comment vous y êtes prise? Parce qu'en plus, c'est souvent en anglais, évidemment, là, les paroles des chansons.
Ouais. Alors heureusement, il y en a très peu finalement dans l'album. Je crois qu'il y a 3 scènes de concert en tout. Donc il y a deux chansons chantées par les héroïnes en français. Donc là, j'étais plus dans mon élément. Et voilà, bah j'ai essayé de trouver des paroles inspirées de, voilà, avec un message, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait faire passer, avec un rythme aussi qui me semblait musical dans l'écriture. J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis pour les paroles de l'autre musicien qui est suédois et qui chante en anglais, là j'ai un ami qui m'a aidé, qui a écrit les paroles pour moi parce que j'étais vraiment trop nulle en anglais.
Et donc vous aviez déjà une mélodie dans la tête lorsque vous avez tous les deux écrit ces moments-là?
Ah non, malheureusement, ça oui. Non, vraiment, là, il y a un rythme, un phrasé dans les paroles, mais il n'y a pas du tout de mélodie, non.
Parce qu'on se surprend quand même à imaginer la voix d'Isaac ou la voix de Nawel, qui a un peu la voix un petit peu voilée parce qu'elle fume un petit peu trop, hein, quand même, hein, faut quand même le préciser. On imagine quand même quand on lit les scènes, quand on parcourt les pages de votre album, quelques mélodies, on se dit, mais c'est dommage parce que vous auriez pu faire un livre-disque, on imagine le CD comme ça à la fin de l'album.
Ça aurait été super, hein, s'il y a des musiciens qui sont, qui ont été inspirés par cette BD. Mais par contre, c'est vrai que pour imaginer les groupes des musiciens principaux de la BD, je me suis vraiment inspirée d'artistes du moment que j'aimais bien. Et voilà, qui m'ont inspirée quel style de musique elles pouvaient faire, les héroïnes, quel type de voix elles pouvaient avoir. Et je me suis inspirée de groupes précis pour que ce soit cohérent, en fait.
Vous l'avez construit en musique? Vous avez travaillé en musique? Vous l'avez dessiné avec un fond sonore musical, Claire Fauvel, cet album?
Bah oui, bien sûr. Je pense que c'était obligatoire. Je me suis fait une playlist avant de démarrer l'album avec du Paul McCartney, et puis aussi des musiques plus actuelles. Et voilà. Ça a guidé la création de l'album.
Est-ce que vous le connaissez, ce milieu de la musique?
Non, honnêtement, je le connais très peu. Je le connais en tant que spectatrice. D'ailleurs, voilà, c'était vraiment cette BD aussi, une déclaration d'amour aux celles que j'aimais bien, que j'ai fréquentées, à ce que ça fait d'assister à un concert, d'être subjuguée par un artiste sur scène. Mais après, je le connais pas en tant que musicien. Et j'ai demandé conseil à quelques amis à moi qui font un peu de musique, qui ont pu m'aider, et j'ai appris plein de choses parce que j'y connaissais rien du tout.
Parce qu'on le découvre en filigrane dans votre récit, ce milieu de la musique, entre cette soirée tremplin organisée par une radio, un festival qui donne sa chance aux plus jeunes. Il en ressort un milieu dans lequel il faut savoir tirer son épingle du jeu. En fait, ça se joue, c'est l'impression que moi j'en ai retiré, en tout cas, ça se joue souvent à pas grand-chose, quoi.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est un milieu assez difficile, en tout cas, tout ce qui est toutes les scènes de concerts, de festivals, de tremplins, c'est vraiment des anecdotes que des amis m'ont racontées, c'est que du vécu, hein, et oui, il y a des moments pas faciles, je pense, quand on débute. À un moment, elles arrivent à un festival, par exemple, et elles sont invitées à jouer dans un festival, et puis elles découvrent qu'elles vont jouer au tout début du festival. En fait, le public n'a même pas encore le temps d'entrer.
Voilà, c'est pas un cadeau de jouer
c'est
au tout
ça,
début.
C'est ça, voilà. Voilà, tout est vide, il n'y a pas un chat, mais c'est trop tard, elles démarrent, c'est un peu un cadeau empoisonné, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est pas évident d'être musicien.
Mais vous pointez un vrai cercle vicieux, hein, puisque les labels ne veulent pas signer des groupes qui n'ont pas tourné, et les tourneurs ne veulent pas des groupes qui n'ont pas fait d'album. Donc en fait, c'est vraiment le diable qui se mord la queue, quoi.
C'est ça, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ça, et je pense que les tout débuts sont pas simples, et maintenant il y a beaucoup d'artistes qui se tournent vers l'autoproduction, des choses comme ça pour démarrer, mais c'est pas évident.
Et YouTube et Internet, ça change quand même beaucoup de choses.
Oui, voilà, ils utilisent YouTube, Internet, je sais pas, SoundCloud, Bandcamp, il y a plein de plateformes. voilà, qui est Spotify, qui permettent de se faire connaître sans passer par tout de suite des concerts, des CD. C'est pas évident, quoi.
Ouais, mais est-ce que c'est un milieu où vous pourriez dire que tous les coups sont permis? Un petit peu comme partout, d'ailleurs, peut-être, pas spécialement
bah,
pour le milieu de la musique, d'ailleurs.
Après, je m'y connais pas plus que ça dans la musique, hein, mais oui, je pense que tous les coups sont permis, comme tous les milieux artistiques en général, quoi. Le star system, c'est assez dur.
Bon, au passage, il y a quand même un petit coup de griffe, hein, juste au détour d'une case, aux clichés qui ont un peu la vie dure avec Maya Sukuna. Alors, juste, elle apparaît vraiment sur une planche, hein, à peine, Maya Sukuna. Et pourtant, elle vous permet de dire beaucoup de choses, Claire Fauvel, Maya Sukuna.
Oui, c'est ça. C'est une chanteuse qui fait du métal, elle. Donc, les héroïnes rencontrent à une soirée jeune talent. Hein. Et alors, elle est assez engagée, assez remontée, puisqu'elle trouve que dans la scène rock parisienne, en tout cas, il n'y a que des blancs, quoi. Elle le dit.
Voilà. La scène rock parisienne, on dirait qu'on l'a lavé au Karcher, il n'y a que des blancs. Voilà.
Voilà. Et là, c'est aussi une phrase que j'ai vraiment entendue d'un ami, quoi, qui m'a dit ça. Et c'est vrai que, donc, ça critique aussi, là. Enfin, c'est aussi une des façons de parler de la fracture sociale, etc. C'est toujours les mêmes choses. Et dans le milieu du rock, c'est vrai que c'est assez. Et assez flagrant, quoi.
Ouais, et les clichés marchent dans les deux sens, parce que comme elle est black, ben, tout le monde pense qu'elle fait du R&B,
ouais,
et en fait, c'est pas du tout le cas, donc.
Elle fait du métal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noirs ni de femmes, qu'elle cumule un peu, qui font du métal, quoi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Claire Fauvel pour son album La Nuit est mon royaume, paré aux éditions Rue de Sèvres. Alors Claire Fauvel, les scènes de concert sont souvent l'occasion pour vous d'éclater le gaufrier traditionnel, donc le découpage de chacune des planches, de chacune des pages, de dessiner parfois en pleine page, parfois même en double page. C'est notamment le cas de la page 60, qui moi est une planche qui m'a beaucoup marqué. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai passée, ensuite je suis revenu, ensuite j'ai observé, ensuite j'ai vu ce qu'il y avait juste avant et ce qu'il y avait juste après. Je me suis dit c'est presque une couverture, ça colle pas du tout, hein. c'est pas du tout un résumé de l'album, donc fallait pas y mettre cette planche en couverture là. Mais on a vraiment l'impression que vous avez passé beaucoup de temps peut-être pour imaginer ce que vous allez dessiner et ensuite pour la confectionner. Déjà décrivez-nous s'il vous plaît cette page 60 et expliquez-nous le cheminement de votre esprit et de votre crayon.
Alors c'est une pleine page, hein. Déjà comme vous l'avez dit, il y a un dessin qui prend toute la page. On voit donc l'héroïne Nawel, elle est à ce fameux festival Jeune Talent, elle écoute un autre musicien sur scène, il s'appelle Isaac Olson, et là c'est le moment où elle va avoir ce qu'on peut appeler un coup de foudre artistique pour ce chanteur. Et donc sur cette image on voit son cœur qui explose, hein, littéralement, c'est pas réaliste. Et on voit ses os qui fondent, elle est dévorée par les flammes.
Voilà, donc ouais. Il y a le cœur qui apparaît comme ça en transparence de sa peau.
C'est
et
ça.
On voit aussi son squelette, hein, effectivement. On a un peu l'impression que le cœur se transforme en soleil parce que finalement, c'est la lumière du cœur. Donc, coup de foudre artistique, on disait, c'est vraiment l'orage, quoi, c'est ça. C'est un coup de foudre artistique, c'est la lumière du cœur qui éclaire l'ensemble de la scène.
C'est ça, voilà, il y a une lumière qui éclaire l'image qui vient du cœur de l'héroïne. Alors ça fait aussi écho aux paroles du chanteur, hein, bien sûr, qui sont écrites autour et qui
parlent
de... « I
was raised with the fire ».
C'est ça, il a le feu qui coule dans ses veines, c'est les paroles, donc c'est un clin d'œil aussi, bien
voilà.
sûr.
Voilà, on sent vraiment d'un bout à l'autre de l'album, mais c'est singulièrement le cas sur cette planche-ci, l'influence du dessin d'animation, hein, puisque vous avez travaillé comme décoratrice de dessins animés. Dans le passé, vous avez fait l'école des Gobelins, donc là aussi le dessin d'animation ça compte beaucoup. Vous êtes aussi passé par l'école Estienne pour l'illustration. Mais quelques mots justement sur votre expérience de l'animation. Dans quelle mesure cette expérience-ci a nourri la création de cet album?
Je pense que ça l'a beaucoup nourri, mais comme tous mes albums en général, au niveau de la mise en scène. Parce que quand je dessine, j'ai vraiment une mise en scène cinématographique. Enfin, je pense la BD comme un film avec des plans larges, des gros plans, des vues subjectives. J'essaie de donner un rythme qui est inspiré du cinéma, même si après je le remets en BD. Et voilà, et aussi dans cette BD, je voulais que, même si c'est une histoire très réaliste, deux adolescentes qui font de la musique, je voulais qu'il y ait vraiment des scènes oniriques. C'est hyper important. C'est quand même une BD qui est baigné par l'onirisme, notamment dans toutes les scènes de nuit. C'est aussi ça qui justifie le titre de l'album. Et donc, notamment dans cette scène dont vous parliez, la scène du coup de foudre, d'un coup, on a une image qui est plus du tout réaliste avec le cœur. Voilà, c'est quelque chose qui était important.
Est-ce qu'il y a une vraie influence manga aussi chez vous, Claire Fauvel? Je pense par exemple à la façon dont vous dessinez les visages et singulièrement les yeux.
Oui, je pense qu'il y a une influence manga. Enfin, moi, je me suis mise au dessin en lisant des mangas quand j'étais jeune, et c'est une influence qui est restée, quoi, notamment voilà, dans les grands yeux, les visages très expressifs, et puis dans la narration qui est assez cinématographique dans les mangas aussi souvent.
Mais on y pense aussi dans les contrastes. Hein. Par exemple, là, devant vous, il y a la page 101, et il y a deux personnages, donc Zach, le fameux chanteur scandinave qu'on évoquait tout à l'heure, et donc votre héroïne Nawel, sur les toits de Paris. Et là, on a vraiment une impression de relief absolument extraordinaire. Ça, c'est une technique de cinéma, ça, Claire Fauvel.
Ah, je sais pas trop comment j'ai fait. Je suis contente si.
Bah, moi, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous avez fait? Parce que là, on a presque l'impression que vous avez découpé vos personnages et que vous les avez ensuite collés sur le décor qui lui-même est en perspective avec plein d'effets de lumière. Alors, expliquez-nous.
Bah, en tout cas, oui, c'est vrai que moi, dans mes BD, j'aime énormément travailler la lumière. C'est hyper important pour moi. Donc là, c'est une scène de nuit. Les personnages sont en contre-jour. Et devant eux, il y a la ville de Paris qui s'étale de nuit. Donc il y a toutes les lumières qui illuminent la ville et eux sont dans l'ombre. Et ça, c'est hyper important. Souvent, je pense d'abord les pages, oui, en termes de lumière, même avant les couleurs, c'est d'abord la lumière, des ambiances sombres, avec des lumières au néon, quand c'est les scènes de concert, ou des lumières naturelles. Par exemple, tous les moments qui se passent dans la banlieue, c'est souvent des jours très tristes, très gris, très fades, alors que les scènes de nuit sont hyper contrastées, c'est voulu, voilà, avec des lumières plus violentes. Voilà,
donc le duo s'appelle Nuit Noire, l'album s'appelle La Nuit et mon Royaume. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la nuit, Claire Fauvel?
La nuit, je pense que c'est déjà, justement, c'est vraiment la rupture par rapport au jour qui est plus banal, plus pratique, qui est relié au monde du travail, des études. Voilà, c'est le moment où l'héroïne, elle est à son boulot, elle s'ennuie. Et la nuit, c'est vraiment le moment privilégié pour le rêve, pour la création et pour l'amour aussi. C'est là que les héroïnes vivent vraiment. Et voilà, moi, la nuit, ça m'évoque tout ça. C'est un moment plus romantique, plus magique.
Donc, ce qui vous intéresse dans la nuit, c'est la lumière, d'une certaine façon, quoi.
Bah oui, c'est vrai. C'est la lumière de la nuit, ouais.
Mais quelle est la couleur de la nuit pour vous, Claire Fauvel? Ou plutôt, quelles sont les couleurs de la nuit? Parce que d'une case à une autre, d'une scène à une autre, votre nuit, elle n'a pas la même couleur. Elle évolue, et elle évolue souvent au diapason de votre récit, au diapason de l'état d'esprit de Nawel.
En tout cas, c'est une nuit très, très citadine, hein, qui est évoquée dans l'album. Là, ça se passe vraiment à Paris, donc c'est des lumières voilà, de néons, de spots, de concerts, des ambiances rougeoyantes, bleutées, dorées. En tout cas, voilà, c'est ces couleurs-là.
Mais comment vous choisissez justement vos couleurs? Parce qu'il y a toute une nuance de bleu, de rouge, de marron, ouais, de noir, d'ocre. Parfois, ça tend un petit peu vers l'oranger ou vers le jaune. Vous faites extrêmement attention aux couleurs.
Oui, moi j'aime beaucoup aussi la couleur. Enfin, justement, quand j'ai un peu travaillé dans le dessin animé avant de faire de la bande dessinée, j'étais coloriste, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en général, j'ai des références visuelles tout simplement avant de démarrer un album. Et là, par exemple, pour cet album, pour mes références, j'avais les films de Wong Kar-wai qui ont comme ça des ambiances assez dans ces tons-là, ou des peintures que j'aime, et puis vraiment des photos de concerts que j'ai aimées aussi, et je me suis inspirée de toutes ces couleurs.
Mais comment est-ce que, justement, vous articulez votre choix de couleurs avec le travail très particulier et très soigné de la lumière? C'est la couleur qui implique la lumière, ou c'est plutôt en sens inverse que ça se passe?
Je saurais pas dire, je pense que c'est les deux en même temps, mais c'est peut-être quand même la lumière qui est un peu plus importante, et puis la couleur vient avec assez naturellement, enfin les deux vont ensemble en tout cas, et les deux s'alimentent.
Alors c'est très à la mode en ce moment, depuis quelque temps, de faire des romans graphiques ou des bandes dessinées en noir et blanc, parce que ça donne justement une dimension particulière, une patine, quelque chose peut-être d'un peu plus pensé, d'un peu plus intellectuel. C'est quelque chose qui vous intéresse, ou c'est pas du tout la voie que vous vous êtes choisie?
C'est vrai que moi j'aime bien la couleur, hein, je dois avouer, mais après j'aimerais bien peut-être un jour faire une bande dessinée en noir et blanc, et justement, ce sera encore l'occasion de travailler la lumière, hein, plus que jamais. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être un jour plus tard.
Alors la lumière, elle tombe aussi parfois des étoiles. C'est banal de le dire hein, quand on est la nuit. Mais certains de vos ciels sont très étoilés, d'autres non. Est-ce que la présence d'étoiles, c'est un signe justement de l'état d'esprit de Nahuel?
Oui, un petit peu, on peut dire. Souvent, les étoiles, elles sont visibles comme ça dans des scènes assez positives. C'est des moments justement assez oniriques dans l'histoire. Et puis quand c'est la nuit un peu brutale pour dormir, là, il y a moins d'intérêt, donc il n'y a plus d'étoiles.
Voilà, parce que c'est vrai que l'étoile, hein, c'est vraiment, et la nuit, c'est vraiment le baromètre de l'état d'esprit de votre personnage. Tout au long de l'histoire, au fil des péripéties de votre scénario, il y a des hauts et il y a des bas hein, dans le destin de Nahuel. On sent chez elle beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de volonté et en même temps une grande fragilité. Quoi. C'est pas facile pour elle de se battre, mais il est hors de question de renoncer à son rêve malgré la souffrance, malgré les désillusions aussi. Pour vous, Claire Fauvel, ce personnage de Nahuel, il est fort ou il est fragile ?
Pour moi, elle est quand même forte, mais il est les deux en fait. C'est ça qui est intéressant. En fait, moi, j'avais vraiment envie de faire une héroïne, d'inventer une héroïne subtile. Et voilà, je trouve que parfois, on a un peu trop tendance à vouloir faire des héroïnes fortes, des femmes fortes qui sont un peu des caricatures, des guerrières, des femmes vengeresses. Et finalement, voilà, en faisant ça, on retombe dans la caricature. Et ce que j'aime, voilà, c'est la subtilité de ce personnage qui est forte, déprimée, drôle, pas drôle, tout ça à la fois, quoi. Elle alterne.
Oui, Nahuel, c'est tout simplement quelqu'un qui vit.
Oui, voilà, elle est très vivante. Je pense que c'est ce qui la définit le plus. Elle est assoiffée de vivre, quoi.
Oui, et je vous pose la question parce qu'en épigraphe de l'album, il y a une citation de Victor Hugo. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime. » Pourquoi vous avez choisi ces vers-là pour entamer votre album ?
Ouais, c'est peut-être un peu... un peu prétentieux hein, de commencer avec Victor Hugo.
C'est pas facile de commencer avec Victor Hugo. Après, il faut assurer derrière. C'est mais c'est ce que vous faites. Donc voilà. Mais pourquoi Victor Hugo ?
Après, il y a Paul McCartney. Mais oui, déjà parce que j'adore Victor Hugo, donc je me suis fait plaisir. J'adore cet écrivain et je trouve ce poème magnifique. Et je trouvais que toute cette histoire finalement est vraiment une longue illustration de ces quelques vers, puisque c'est le combat pour vivre. C'est le combat d'une jeune fille pour vivre sa vie pleinement et avec passion, quoi. Pas juste pour survivre, pour vivre avec passion. C'est vraiment l'histoire de cet album, quoi.
Et quand on est une femme, vivre avec passion dans le monde de la bande dessinée et vivre de son travail, ça ressemble un petit peu au destin de Nahuel ou pas du tout, Claire Fauvel?
Oui, un petit peu, on peut le dire. Je pense c'est évident qu'il y a une partie de la BD qui est autobiographique, comme j'ai aussi grandi en banlieue, tout ça. Et oui, c'est pas évident. Moi aussi, j'ai dû faire pas mal de choix, des compromis, et justement, j'ai aussi choisi de ne pas faire de compromis, quitte à me mettre en danger, parfois. Et voilà, c'est des choix que je regrette pas. Je pense que je suis comme l'héroïne, j'ai envie de vivre à fond, pas du tout.
Mais vous avez reçu le prix Artemisia, hein, qui récompense une autrice de BD et qui vise à donner aux femmes une plus grande visibilité dans le monde de la BD. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont en train de changer?
Oui, complètement. Ça me fait plaisir. Je trouve en effet, moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée quand même dans la bande dessinée il y a peut-être 4-5 ans et c'était déjà un moment où il y avait beaucoup plus d'autrices en bande dessinée, beaucoup plus de femmes. Et je sais que dans les écoles d'art, on est quasiment à la parité entre les nombres, entre les élèves filles et garçons. Et je pense que dans quelques années, ce sera une question qui sera réglée. Et en tout cas, je suis heureuse d'arriver à ce moment où les filles s'approprient ce médium, quoi.
Eh bien, acceptons-en l'augure. Merci beaucoup, Claire Fauvel. La nuit est mon royaume. Votre album paru aux éditions Rue de Sèvres. Cette émission est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors ça ne vous a pas échappé, c'est Mardi Gras. Alors prenons pour terminer la direction du nord-est du Brésil, la ville de Recife, une région où le carnaval concentre tout ce que la culture populaire a de plus riche, de la joie du frevo au rythme de l'afoche, en passant par les musiques afro-brésiliennes comme le maracatu. Au total, 5 jours de fête sans coronavirus a priori, mais pas seulement. Hein, un an après l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, les manifestations populaires comme le carnaval résistent et dénoncent la guerre culturelle du gouvernement contre les artistes. Reportage de notre correspondante au Brésil, Sarah Consolino.
Un petit parapluie coloré à la main, Antonio Gutiérrez se contorsionne en dansant le frevo au rythme des cuivres et des percussions.
C'est vraiment une grosse bouffée d'énergie ce qu'on ressent dans cette danse. C'est un rythme joyeux avec tous les instruments en chœur et l'impression que votre corps dialogue avec eux. Avec les bras, les jambes, on exprime toute l'énergie, la joie du moment avec notre corps. C'est ça le frevo.
Même s'il travaille au sud du pays, à São Paulo, il ne passe pas un carnaval loin de sa région natale.
Quelqu'un qui fait l'expérience du carnaval d'ici aura toujours envie de revenir. On se fait de nouveaux amis, on connaît de nouvelles personnes et on s'amuse en plein milieu de la rue. Cette culture, le carnaval de rue, complètement gratuit, est encore très fort ici.
Le carnaval de Recife va de pair avec celui de sa ville jumelle, Olinda, déclarée patrimoine mondial de l'humanité. C'est dans ces rues pavées, colorées et surtout très pentues que défilent les musiciens. Lucio Geno fait partie de l'organisation d'un bloco, un petit orchestre de rue.
La topographie de la ville nous empêche d'avoir des chars pour nos orchestres. Alors imaginez monter cette pente en jouant du tuba. Ici, le carnaval, c'est nous et notre sueur. On implore nos amis d'acheter les t-shirts du groupe pour avoir un peu d'argent pour payer l'orchestre. Parmi les musiciens des orchestres, il y a beaucoup de maçons, d'électriciens, qui grâce au carnaval peuvent gagner un peu d'argent. Donc il y a une dimension sociale très importante dans le carnaval d'ici. Et l'ingrédient principal, c'est la participation de tout le monde. On ne trouve ça qu'ici.
La dimension politique n'est jamais très loin non plus. Au détour d'une rue, la foule reprend un refrain contre le président brésilien. Face à un gouvernement qui parle ouvertement de guerre culturelle contre les artistes de gauche, les manifestations populaires sont parfois réprimées ou censurées. En tant que productrice pour plusieurs groupes et chanteurs, Melina Hickson en a déjà fait l'expérience.
On a déjà été obligé de signer des clauses avant de monter sur scène, nous interdisant de parler de politique. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est avec des situations comme ça qu'on perçoit des attaques frontales contre la musique.
Cette année, la police militaire est même intervenue dans plusieurs défilés de musiciens de rue, dispersant parfois la foule avec des gaz lacrymogènes. Pour les groupes de musique afro-brésilienne et de tradition religieuse, comme le maracatu, cette forme de répression n'est pas nouvelle.
Il y a énormément de discrimination dans le traitement des artistes, entre ceux qui jouent sur des grandes scènes et ceux de la culture populaire qui font le carnaval de rue, qui en réalité sont de vraies marques et la force de notre culture régionale.
Alors que le carnaval de Recife accueille de plus en plus d'événements fermés et chers, défiler dans les rues au son des musiques régionales devient un acte de résistance. Sara Cozzolino, Recife, RFI.
On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI. Et vous m'en direz des nouvelles.